France Culture. France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Comment faire connaître, apprécier, aimer la culture d'un pays ami, l'Allemagne, aux Français. Le problème, c'est que, comme chacun sait, il y eut deux Allemagnes durant longtemps. Problème ou chance lorsqu'il s'agissait de culture à faire connaître, apprécier, aimer aux auditeurs de France Culture, par exemple. Le cinéma. Eh bien, le cinéma, assurément, le cinéma de l'Allemagne de l'Ouest n'abordait pas les mêmes thèmes, ne subissait pas la même influence que celui produit, montré en Allemagne de l'Est. Et puis, il y avait la censure. Alors, à propos, quelle Allemagne, en 1965, lorsque furent diffusées les deux émissions qui suivent, produisait le plus de films en une année ? Et pour quel public étranger, lorsque ces films étaient montrés à l'Est et à l'Ouest ? Le regard français sur les cinémas allemands, au milieu des années 60, deux émissions signées Jean Mitry et Philippe Hainaut.
France Culture vous présente « Connaître le cinéma », l'émission publique de Jean Mitry et Philippe Hainaut. Aujourd'hui, le cinéma allemand en République fédérale, avec la projection en avant-première du film de Ferdinand Kittel, Parallelstrasse. Commentaires et débats avec la participation de Alexandre Alexandre, Robert Benayoun, Jean-Paul Terreuc et des spectateurs.
Nous allons consacrer deux séances à l'étude du cinéma allemand, d'Allemagne de l'Ouest et d'Allemagne de l'Est. Il n'est pas question, en quelques minutes, de faire l'historique du cinéma allemand, mais de vous rappeler quelques repères essentiels de l'histoire du cinéma de ce pays, car la situation du cinéma allemand contemporain, en Allemagne de l'Ouest notamment, s'éclaire si l'on connaît mieux le contexte et si l'on connaît mieux le passé, le grand passé de ce cinéma.
Le cinéma allemand, au temps du muet, a été un des plus grands cinémas du monde et son influence a été extrêmement importante. Le cinéma allemand est né, on peut le dire, avec la guerre de 1914, mais c'est à partir de 1918 qu'il s'est considérablement développé. On a vu apparaître, en dehors d'une quantité d'autres films, tout particulièrement ces films que l'on a qualifiés d'expressionnistes, qui se réfèrent à une école qui était influencée naturellement par les mouvements expressionnistes du théâtre, de la littérature et de la peinture, mais qui ont appliqué au cinéma, déterminé et caractérisé une tendance extrêmement singulière. Le premier chef-d'œuvre du genre de l'expressionnisme, disons, orthodoxe, ça a été le célèbre cabinet du docteur Caligari, que l'on a vu en France en 1919. Après cela, cet expressionnisme, évidemment, s'est un petit peu tempéré. On ne pouvait pas ne faire que des décors excentriques, et on a appliqué un expressionnisme, une stylisation expressionniste à des décors plus réels, plus réalistes, et on a eu ce que l'on peut appeler l'expressionnisme légendaire. Genre dans lequel se sont illustrés tout particulièrement les deux plus célèbres metteurs en scène allemands de l'époque muette, je veux dire Murnau et Fritz Lang. avec des films comme Les Nibelungen de Fritz Lang, comme Nosferatu de Murnau, comme Le Faust de Murnau, et comme d'autres films encore de ces metteurs en scène et de beaucoup d'autres qui les ont suivis. Après cela, et même, on peut dire, parallèlement à cette tendance, si vous voulez, d'un expressionnisme légendaire orienté vers le fantastique et la légende, il y a eu un expressionnisme plus tempéré encore que l'on a qualifié de Kammerspiel. Le Kammerspiel, c'est le théâtre de chambre, et c'était déjà un genre théâtral que les compagnies de Max Reinhardt avaient précédemment illustré. Et c'est l'application des théories du Kammerspiel au cinéma qui ont, elles aussi, donné un genre qui est entre l'expressionnisme proprement dit et un certain réalisme. On pourrait dire que c'est un réalisme stylisé. Parmi ces films, il y a eu La Nuit de Saint-Sylvestre, Le Rail, les films de Lou Poupic notamment, et puis le plus célèbre, qui est également un film de Murnau, c'est Le Dernier des Hommes, qui appartient plus à cette catégorie que les autres films de Murnau, qui, eux, se rattachent davantage à l'expressionnisme un peu légendaire et fantastique. Voilà les aspects essentiels de ce grand cinéma de 1918 à la fin du muet, à 1930.
Oui, justement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand on parle du cinéma allemand muet, on parle traditionnellement de l'expressionnisme, du Kammerspiel, et puis après, on a une poussière de météorites, quantité de films qu'on cite qui sont excellents, mais qu'on ne regroupe pas très bien. Et les recherches contemporaines ont amené à dégager des lignes dans cette troisième partie, ce troisième moment essentiel du cinéma allemand, qui vaut bien les deux périodes précédentes. C'est la période qui s'étend de 1927 à 1933, très exactement de Berlin, symphonie d'une grande ville, à Kulewampe, juste à l'avènement d'Hitler. C'est une école que, grosso modo, on peut qualifier de réaliste. Autrement dit, il y a un démarrage dans le fantastique, dans l'onirique, un refus du réel. Et avec le Kammerspiel, il y a déjà un retour progressif vers le réel. Et ce contact avec le réel, on le trouve dans ce troisième temps. Cette grande époque de 27 à 33, au fond, recouvre deux tendances, une tendance de description sociale et une tendance de revendication de la liberté sexuelle, essentiellement. Et il me semble qu'elle est très importante, d'autant plus que les grands créateurs de ces films ont émigré par la suite et que Hitler, lorsqu'il s'est installé au pouvoir, est venu pour détruire cet état d'esprit, bien entendu.
On pourrait, dans le genre que vous citez, nommé particulièrement Pabst.
On peut citer surtout un chef-d'œuvre qui est capital et qui est méconnu, à peu près inconnu ici. C'est un film qui s'appelle Les Hommes le Dimanche, qui a une influence considérable, ne serait-ce que parce que ses auteurs s'appellent Siodmak, Billy Wilder et Fred Zinman.
Mais je crois que l'œuvre maîtresse, malgré tout, des débuts du cinéma parlant allemand, le chef-d'œuvre, c'est encore un film de Fritz Lang, c'est le fameux Maudit, qui est ressorti il y a peu de temps en France, à Paris, et qui n'a absolument pas vieilli, qui reste une très grande œuvre cinématographique, un des chefs-d'œuvre authentiques du cinéma.
Maintenant, je crois qu'il faut dire aussi une chose très importante. Écrire l'histoire du cinéma allemand, c'est d'abord écrire l'histoire d'un trust cinématographique colossal, c'est la UFA. Et il est bon de rappeler qu'en marge de ces grandes tendances qui nous intéressent sur le plan esthétique, l'expressionnisme, le Kammerspiel, le réalisme, s'est développé un cinéma énorme, un cinéma de grande mise en scène, de grande machine historique, et qui a fait la prospérité de la UFA jusqu'au début du sonore.
Avec Lubitsch notamment comme metteur en scène principal, qui s'est illustré en 1920 par des films à très grande mise en scène. Mais alors, je le répète, il faudrait faire toute l'historique du cinéma allemand, il faudrait parler aussi de Joe May et d'une quantité d'autres metteurs en scène.
L'école expressionniste a marqué tout le cinéma mondial. Et d'autre part, l'avènement d'Hitler a eu pour première conséquence l'émigration de la plupart des créateurs et techniciens allemands de valeur. Une grande partie du cinéma américain, depuis 1933, a été le fait d'une colonie allemande. Et malheureusement, depuis 1933, le relèvement qu'on espérait ne s'est pas produit. Le docteur Goebbels, qui a été le maître de la propagande sous Hitler, se faisait des illusions au départ. Il attachait une grande importance au cinéma, autant que les soviétiques, et il avait fixé une tâche très claire au cinéma. Il s'agit, disait-il, de convaincre, de distraire et d'instruire. Je passe tout de suite sur la distraction. Il est évident que même dans un pays totalitaire, il faut distraire les masses. Et on a fait, sous le règne de Hitler, même au moment de la débâcle, et surtout au moment de la débâcle, des films de divertissement que vous avez pu voir, comme Le Baron Munchausen ou La Ville Dorée, et des films comiques différents. Instruire, il est important de souligner un type de film allemand qui s'appelle le Kulturfilm, et qui n'est pas né d'ailleurs avec Hitler. Des films qui sont des documentaires à prétention culturelle. Et enfin, convaincre, évidemment, c'était la science, l'art du docteur Goebbels, qui pensait qu'on devait prendre pour modèle le cinéma soviétique révolutionnaire de la fin du mai et en donner un équivalent nazi. Il pensait, par exemple, qu'on pouvait et on devait faire des cuirassés Potemkin nazis. Le dernier film social avant l'arrivée d'Hitler, c'est Kuhle Wampe, inspiré de Bertolt Brecht, qui en a fait le scénario. Le premier film hitlérien, c'est Le jeune hitlérien Kex, qui est une tentative de définir un personnage de jeune nazi de façon sympathique et avec référence au contexte. Je pense tout de même qu'il faudrait citer quelques-uns des créateurs importants et quelques-uns des titres de ce cinéma hitlérien. Je crois d'abord qu'il y a deux noms à citer qui résument bien les ambitions et les limites du cinéma nazi. Dans la réussite, entre guillemets, c'est Leni Riefenstahl, avec Le Triomphe de la Volonté et Les Dieux du Stade, après La Lumière Bleue. Et au niveau de la propagande et de l'échec, Veit-Harland, qui est un des cinéastes les plus célèbres du monde à cause d'un ignoble film qu'il a produit, mais qui est très significatif et qui s'appelle Le Juif Sus.
Mais ce qui est surtout dommage, c'est que depuis la dernière guerre, le cinéma allemand ne s'est pas relevé de ses ruines.
Il y a un paradoxe très curieux concernant le cinéma allemand. C'est que sa grande époque coïncide avec la ruine du pays. Et le miracle économique allemand depuis la guerre coïncide avec un cinéma très médiocre.
Un cinéma d'épicerie. Ce sont des films sur le folklore, c'est exactement les histoires, si vous voulez, les histoires tyroliennes, avec le chapeau tyrolien, la plume, et puis un chanteur tyrolien qui vient faire des roucoulades et raconter une romance d'amour. C'est exactement le type des films allemands qu'on tourne depuis.
Alors, vous mettez le doigt, Mitri, sur un aspect quantitatif très important, c'est, disons, la comédie bavaroise. Mais il n'y a pas que ça. Et il y aurait au moins une analyse idéologique du cinéma allemand d'après-guerre à faire. Il y a par exemple l'évocation de la guerre, de l'hitlérisme et de la défaite. Et bon ou mauvais, ces films-là sont très nombreux et ils sont très caractéristiques, c'est une des dominantes. Progressivement, dans les années d'après-guerre, quand on a évoqué à l'Ouest la déroute allemande, ça a été de façon un peu ambiguë et bientôt avec une certaine justification. Alors je rappelle des films tout de même très importants, des films relais, Le procès, par exemple, de Pabst, car un certain nombre de cinéastes sont revenus en Allemagne, et des films comme L'Amiral Canaris jusqu'au Bond de Vicky. Quelles sont les raisons de cette médiocrité du cinéma d'Allemagne de l'Ouest contemporain? Sans doute d'abord des raisons idéologiques. Le public allemand, les créateurs allemands sont gênés de voir évoquer des problèmes aussi graves que ceux qui ont engagé la vie de la nation et que les vieilles générations veulent oublier. Il y a un appétit de vivre, une dépolitisation très nette. D'autre part, des raisons économiques. Les producteurs, les distributeurs, les commerçants du film en Allemagne visent la satisfaction facile du public allemand, une rentabilité assurée et le marché commun. D'autre part, il y a la concurrence de la télévision. En Allemagne, en 1964, il y avait 10 millions de postes de télévision, c'est-à-dire le double de la France. Une dernière raison aussi, c'est l'attitude du gouvernement allemand face au cinéma. Il n'y a pas en Allemagne toutes les protections concernant le cinéma qui existent en France. Un film comme celui que nous allons vous projeter en avant-première, Parallelstrasse, n'est tout de même pas une exception totale. Il est, si vous voulez, le cinéma allemand potentiel, c'est-à-dire le cinéma qu'un certain nombre de jeunes, qu'un certain nombre d'indépendants veulent faire. Si le cinéma allemand a des chances de renaître, de se développer sur le plan esthétique, c'est avec des gens comme Ferdinand Kittel et dans la voie peut-être de Parallelstrasse.
Il est exactement 6 heures du matin. Vous êtes à la fin de la deuxième nuit sur les documents concernant la personnalité en question. Jusqu'à la reprise de l'enquête, la nuit prochaine, vous êtes libre des prescriptions du règlement. Je vous souhaite une bonne journée. Messieurs, je vous remercie.
Dans un local anonyme, faiblement éclairé, 5 hommes sont enfermés jour et nuit sous le contrôle d'une sorte de fonctionnaire, peut-être leur juge, qui leur soumet des documents, la plupart sous forme de films, rapportés du monde entier par un inconnu. Les jurés doivent découvrir la signification globale de ce dossier mystérieux constitué par un personnage mythique. On devine qu'en dépit de leurs efforts, ils ne parviendront pas à déchiffrer l'énigme et qu'ils sont déjà condamnés à mort.
Voir un film qui est extrêmement curieux, nouveau et très révélateur, en tout cas, du jeune cinéma allemand. Il ouvre une voie originale. Est-ce qu'elle est pleine d'avenir? Est-ce que c'est une impasse? Nous n'en savons rien. Et on pourrait peut-être, pour serrer les questions, d'abord parler du film sur un plan très général. Ses intentions, nous pourrions parler des qualités purement cinématographiques ou techniques après.
Pour commencer, on pourrait dire que l'ensemble a été conçu au départ, avant même que l'opérateur et le réalisateur partent autour du monde pour rassembler ces images. Et ces images ont été rassemblées suivant un plan qui était aussi précis que finalement le résultat devrait l'être.
Lorsque ce film a eu le grand prix du film expérimental à Knokke-Lösout en décembre 1963, des gens nous ont dit au retour que le film avait été commandité par une grande entreprise allemande qui avait envoyé des opérateurs à travers le monde, qui avait rapporté des documents curieux à la manière de nombreux films, par exemple les films de Jacopetti ou des Italiens, par exemple, et que c'est à la suite que ces gens-là avaient décidé de construire un film plus original, personnel, révolutionnaire. Donc, le témoignage de Ben Ayoun contredit cette thèse.
C'est un fait. Enfin, l'auteur affirme qu'il a bel et bien demandé pour la réalisation de son film l'aide d'une compagnie aérienne qui lui a permis d'accomplir ce périple extrêmement long et compliqué. Mais néanmoins, le film était conçu d'avance. Et ça, c'est une chose absolument capitale. Parce que toute la rigueur que ça implique doit être présente à l'esprit des spectateurs quand ils essayent de juger ce film et de l'élucider.
Le piège, je crois.
Ah, il y a un piège, c'est un fait.
Le piège du film, et c'est un de ses intérêts, et surtout vis-à-vis d'un public français, c'est de nous présenter un film rébus qu'on déchiffrerait image par image. Or, je crois que son sujet réside non pas dans la signification des éléments un par un, mais dans leur rapport. C'est-à-dire, par exemple, que les personnages et les actes, les images peuvent être groupées, finalement, comme dans une boîte chinoise. Il y a les témoignages qu'on soumet à des êtres humains. Je mets entre parenthèses le juge ou l'intermédiaire. Et puis, il y a nous. Il y a nous, spectateurs. Nous sommes les témoins de ce jury qui peut, dans une certaine mesure, nous représenter, mais avec qui nous avons des relations de fraternité ou d'opposition. Et ces gens sont placés devant des documents. Et je crois que la richesse du film vient des rapports qui sont établis entre ces différents éléments.
Non, je ne suis pas du tout de cet avis. Et je crois que le tribunal est extrêmement important. Il a une raison précise. Je ne voulais pas en parler tout de suite. Indiquer un peu mon idée. Je crois que les conditions dans lesquelles les jurés sont placés pour juger le film sont des conditions pièges. C'est-à-dire que les interventions, le rituel, le règlement est fabriqué pour empêcher le jury de découvrir l'ordre qui finalement se trouve dans ces images. Et cet ordre, on peut le trouver
Enfin, on peut en trouver un, peut-être que chacun d'entre nous peut trouver le sien, mais on ne trouvera jamais le sien si, véritablement, on tient compte du règlement, des interventions du président de séance, et même des tentatives qui sont, à mon avis, volontairement écrites par Kittle comme des tentatives confuses des jurés pour interpréter ces images.
Oui, mais ça me paraît tout à fait secondaire. C'est la première fois que je vois ce film. Je m'aperçois qu'il est bourré de richesses, qu'il faudra que je le revoie dans le détail. Mais au fur et à mesure du film, d'ailleurs, avec l'humour, car il y a beaucoup d'humour dans ce film, et il y a des fausses pistes volontaires, on nous prévient, au fond, de la façon dont il faut voir ce film. Et je crois que, au moins à la première vision, ce qui importe, ce n'est pas la signification de détail des choses. À la limite, d'ailleurs, il y a autant d'interprétations que de moments psychologiques. C'est-à-dire que chacun a son interprétation et chaque être peut en donner plusieurs. Ça n'a pas tellement d'importance. Non, le premier degré de signification, qui est beaucoup plus évident, c'est de classer les choses par thème. Or, on retrouve, si l'on veut bien pénétrer les apparences, on retrouve dans le film les thèmes fondamentaux de la psychologie des jeunes artistes et des jeunes penseurs contemporains, héritiers d'une certaine culture dans le contexte européen. Et on retrouve finalement, exprimé avec plus ou moins de valeur, les grands lieux communs de la vie. La mort, par exemple, c'est le thème le plus fondamental, n'est-ce pas ? L'obsession de la mort, la solitude, une réflexion générale sur la condition humaine.
Je crois que tout est dans le dialogue, qui, indépendamment de l'interprétation qu'on peut lui donner, est un des plus beaux textes philosophique et poétique que j'ai jamais entendu, depuis très longtemps, en tout cas. Je crois que, si on cherche tout de même à résoudre cette situation du jury, de la personnalité en question, des documents et du président de séance, je crois qu'on peut dire d'une manière générale que la personnalité en question, c'est l'auteur Ferdinand Kittle, et que nous devons nous placer dans l'attitude du jury, qui consiste à savoir ce que ce personnage a rapporté de son voyage et quelle est la leçon qu'il en a tirée, car il en a tiré une, tout de même.
Oui, alors je suis encore aux antipodes de Ben Ayoun. Je pense que nous risquons d'être dans l'attitude de ce jury qui me paraît condamné. Me paraît condamné parce qu'il est distrait. Et c'est, je crois, un film très important au niveau de cette intention, la distraction de l'homme moderne, mais au sens du divertissement pascalien. Nous sommes saturés de mouvements, de bruits, d'actions, de pensées, etc. Et finalement, c'est au service du détail, du fragment, et rien ne se raccroche. Le tort des cinq personnages qui sont en cause, c'est justement de demander « Mais est-ce bien un tel ? Est-il bien mort à cet endroit ?» Et l'intermédiaire leur dit à chaque fois « Et croyez-vous que ce soit tellement important ? Ça pourrait être tout à fait autrement. » Ces gens-là veulent échapper à l'essentiel qui est une réflexion, finalement, sur la condition humaine, à mon sens.
Oui, moi, je ne crois pas qu'il y ait une clé à ce film. C'est-à-dire, je ne crois pas que le réalisateur, Kittle ou n'importe qui, possède la clé du mystère. En fait, cette personnalité en question, qui est mythique, dont on ne sait même pas si elle existe, on ne sait même pas si elle a voulu donner un sens à ces documents, je pense que le problème qui est posé, c'est peut-être le problème du mot-clé qui ouvrirait les portes du monde, le mot-clé qui donnerait la signification du monde. Or, il est bien évident que ce problème n'est pas résolu et n'est pas prêt d'être résolu.
Bien entendu.
Monsieur, ce qui m'apparaît, c'est que finalement, ce personnage mythique qui aurait légué des documents, il ne me semble pas qu'on puisse vraiment lui prêter une personnalité, ni même qu'on puisse l'identifier à l'auteur. En fait, pour moi, la signification de ce film, c'est l'impossibilité pour l'homme, au cours de son existence, d'arriver à comprendre la signification de son existence. Ces hommes du jury, sont dans la situation de l'homme qui naît, qui doit mourir un jour, et on est sûr d'une chose, c'est qu'il mourra avant d'avoir trouvé. Parce qu'évidemment, c'est un problème insoluble, et en mon sens, le seul objectif du réalisateur est de présenter en assez peu de temps, un problème qui puisse être aussi embrouillé que peut-être le problème de l'existence humaine, du monde et des rapports entre les diverses choses qu'il peut y avoir dans l'univers, que ce problème a pu paraître à tous les philosophes du monde depuis qu'il y a des philosophes et depuis qu'il y a des gens qui pensent.
Absolument.
Je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de ce monsieur.
Moi, ça me fait penser à une pensée de Pascal. L'homme est absurde parce qu'il cherche et les grands parce qu'il trouve. Seulement, j'ai l'impression que le film veut nous prouver que l'homme ne trouve rien.
Non.
Ah, pardon.
Absolument pas.
Non, justement, je vais vous renvoyer la balle. Moi, j'ai pensé beaucoup à un tas de gens, notamment à M. Malraux. Parce
il y a Kafka.
Kafka, Borges, bien sûr. Mais on pense vers la fin, quand on veut nous dire les choses plus clairement, on pense notamment à Malraux. Nous sommes des condamnés à mort. Notre vie a-t-elle quand même un sens? Eh bien, elle a le sens que nous
voulons
lui donnons.
Bien lui donner, bien sûr.
Et on peut lui trouver un sens dans le plaisir le plus égoïste, comme dans l'amour charnel, comme dans le travail social et comme dans l'engagement, car il y a un aspect aussi d'engagement politique dans le film. Je crois qu'il y a ça. Notre vie est absurde, a priori, puisque nous naissons pour mourir, et nous pouvons rester là. Et nous pouvons aussi donner un sens à notre vie qui a une valeur plus ou moins grande et plus ou moins universelle.
C'est bien ce que je voulais dire. Les choses sont absurdes. Il est absurde de chercher une raison à l'absurde, mais on essaye quand même de lui donner une raison, fût-elle arbitraire et fût-elle théorique. Monsieur, je vous en prie.
Oui, au début du film, enfin, le réalisateur prend deux positions, une dans la première moitié et une autre dans la deuxième moitié. Dans la première moitié, il a l'air de dire que c'est absurde, mais dans la deuxième moitié, il prend une position très nette. Au moment où on voit le Christ de Rio de Janeiro, il y a la parole qui dit qu'après la mort, il n'y a rien. Et il ne cherche donc plus à dire que c'est un problème, puisqu'il estime qu'il n'y a rien. Autrement dit, dans la deuxième partie, il supprime le problème qu'il avait essayé de soulever dans la première partie.
Je crois qu'il n'y a pas de différence aussi essentielle que vous le pensez entre la première et la deuxième partie.
Enfin, ce n'est pas essentiel parce que ça évolue lentement.
Je crois que les différents mots qui peuvent se lier à d'autres mots sont les mêmes dans la première partie que dans la deuxième partie. On peut les trouver d'ailleurs, il nous suffirait peut-être même d'avoir trois de ces documents pour comprendre peut-être ce qu'a voulu faire l'auteur.
Monsieur ?
Il y a un aspect du film que j'essaie d'élucider, c'est celui justement des relations qui existent entre ces différentes séquences de voyage et le jury. Or, il y a une chose que j'ai remarquée dans ce film qui est assez curieuse, c'est que si on essaye de résumer les thèmes, on peut en fait voir trois pistes principales, il y en a certainement beaucoup d'autres d'ailleurs. Enfin, j'en ai relevé trois. Il y a le thème de la mort et de la mort qui est à la porte de chaque être, à n'importe quel moment. Il y a le thème de la solitude des êtres, et il y a le thème de la solidarité. Les êtres sont tous ensemble et doivent vivre pour les autres. Or, ce qui m'étonne, je pense que c'est voulu par le réalisateur, c'est que ces hommes qui constituent le jury, qui sont vraisemblablement, d'après ce que nous laisse entendre le film, condamnés à mort s'ils ne trouvent pas la solution. Ces hommes ne se préoccupent absolument pas, pendant cette heure et demie au cours de laquelle nous les suivons, ne se préoccupent absolument pas de leur mort personnelle. Ils essaient de trouver une solution à des images qu'ils voient, ils essaient d'élucider des thèmes et de construire tout un raisonnement, mais ils ne se préoccupent pas de leur sort personnel, ils ne pensent pas à leur mort. De même, nous constatons que, loin d'être solidaires pour essayer de faire ressortir un salut commun, ils se disputent, ils ne sont pas d'accord, ils trouvent le moyen les uns et les autres de se paralyser ou d'apporter des solutions qui ne contribuent pas à l'avancée collective. Et enfin, nous les retrouvons seuls, mais dans l'impossibilité de se pencher sur leurs propres problèmes. Alors je me demande si l'auteur n'a pas essayé de nous placer individuellement en tant que membres du jury qu'est l'humanité finalement, et de nous amener à nous poser à nous ces problèmes qu'il nous a évoqués dans ces différentes séquences.
Oui, exactement. On aurait tendance, monsieur, à noter tout de suite les éléments négatifs concernant le jury. Mais il y a aussi des éléments positifs, il y en a un qui est très beau, par exemple, la réplique orgueilleuse, enfin c'est tout l'orgueil humain, de la raison, de la révolte devant l'absurde, la réplique du gars auquel on a dit « si vous ne trouvez pas, ça ne fait rien ». Vous ne serez pas sanctionné, on peut ne pas examiner le document si vous le trouvez trop difficile. Elle répond non, ce serait trop facile.
Madame demandait la parole tout à l'heure.
Je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de faire l'analogie entre la discussion que nous avons maintenant et celle qui était menée dans le film. Enfin, nous avons l'impression que c'est un prolongement et que notre démarche d'esprit est exactement celle qu'ont les membres du jury. Nous montons en épingle certains faits, nous en laissons tomber d'autres, et puis finalement, à quoi est-ce que nous arrivons? Nous ne pensons pas nous-mêmes à notre propre mort, qui viendra peut-être.
Enfin, c'est ce qui est diabolique dans le film, exactement. C'est ça qui fait le côté génial
là,
du film.
Et peut-être bien que nous ne trouverons pas de solution à ce film.
C'est peut-être ça.
Pas plus que les membres du jury ne trouvent de solution aux questions qui sont posées.
Alors, on pourrait reprendre le vocabulaire.
Il n'y a pas de solution à trouver d'ailleurs. Madame.
Je voulais simplement dire qu'en attendant notre propre mort, nous aimerions de temps en temps voir des œuvres qui soient vraiment des œuvres d'art. Et j'avoue que je ne me suis jamais tant ennuyée au cinéma que ce soir. J'ai vu de magnifiques photos. Je les ai admirées profondément en tant que photos. J'ai trouvé que la langue, ce soir, était la meilleure et la pire des choses. Il y a une accumulation de tous les poncifs absolument inimaginables. Et j'avoue que si ce film est caractéristique du cinéma allemand contemporain, c'est à désespérer de l'Allemagne.
Je suis persuadé que ce film ne caractérise en rien le cinéma allemand. Je crois que ce film est un film qui pourrait être qualifié comme de film intellectuel, international, qui pourrait très bien avoir été conçu n'importe où. Et je souhaiterais peut-être pour le cinéma allemand actuel que ce film soit caractéristique de sa production, car c'est le seul film allemand, personnellement, que j'ai admiré, disons, dans les 10 dernières années.
Oui. Quelqu'un demandait la parole.
Jusqu'à présent, on a donné certaines interprétations qui me paraissent d'ailleurs toutes très valables et très intéressantes. Mais je crois que si on aborde la construction du film, on arrive à trouver quelque chose d'absolument extraordinaire. J'étais très surpris d'entendre une dame tout à l'heure qui disait qu'elle s'était très ennuyée, parce que je pense qu'il est impossible de s'ennuyer devant ne serait-ce que des morceaux de vie. Et je ne pense pas que l'on ne puisse pas se passionner devant des personnages qui vivent une telle expérience de toute façon. Et ce qui me paraît particulièrement extraordinaire dans ce film, en rapport à la construction, et sans nier tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est le fait que ces documents, nous avons eu l'occasion de les voir souvent, en fin de compte, ou tout au moins de voir peut-être des documents parallèles. C'est d'ailleurs une des premières phrases d'un des membres de cette assemblée qui dit « Mais n'avons-nous pas déjà vu ce document ?»« Non, c'est parce que nous avons sauté, etc. » et que ces documents se ressemblaient. En fin de compte, nous avons vu ces documents dans des films de construits, dans des courts-métrages, dans des actualités. Nous les avons vus à tout moment de la vie parce qu'ils sont la vie elle-même. Et que ces documents, au moment où nous les avons vus et où nous n'étions préoccupés que par l'action même qu'ils nous montraient ou par la chose qu'ils nous montraient, avaient une certaine valeur. Mise dans ce film, ils prennent brutalement une autre valeur puisque nous savons que grâce peut-être à ces documents, grâce à cette vie qui nous est présentée, la solution au personnage va peut-être être donnée. Alors que malgré tout, au départ, on nous dit que la solution, ils ne la trouveront pas. Pour répondre aussi à une autre question de cette dame qui disait « Quand allons-nous voir des œuvres d'art ?» Eh bien, je dirais que ce film donne à réfléchir et que peut-être une des premières caractéristiques de l'art, c'est de donner à réfléchir.
J'aimerais qu'on revienne un peu au titre. Il parle d'une route parallèle et il nous montre beaucoup de routes, il nous montre des ponts, il nous montre un certain nombre d'activités humaines dont certaines sont nutritives, alimentaires, et certaines sont des activités de transport. Et tout ça est lié par le commentaire et par l'image, à la naissance, à la vie et à la mort. La naissance est comparée d'ailleurs à la mort d'une manière très explicite dans ces documents qui sont présentés à l'envers et dans lesquels la dissection des animaux, l'écarissage des animaux est comparé à la naissance et à la fabrication des êtres humains. On vous raconte l'histoire de ce monsieur Himmelreich qu'on commence par la fin et qui se termine par son début, par le plus beau jour de sa vie, qui est sa naissance. On nous dit un peu plus loin que le plus beau jour de la vie est aussi la mort. Et cette notion de parallélisme est, je crois, la notion sur laquelle tout le film est construit. La construction du film dépend de ça. Il y a un passage dans lequel on vous dit que toutes les villes qu'on vous montre font partie d'une même ville. Et là, c'est une idée philosophique que Lewis Carroll, par exemple, sur le mode humoristique, avait posé quand il disait que Paris était la capitale de Londres, que l'Angleterre était la capitale de l'Italie, etc. Il voulait dire, en effet, que toutes les villes, c'est la même ville. Toutes les routes, c'est la même route. Elles mènent exactement au même endroit. Tous ces personnages, finalement, progressent de la même manière. Tout peut être comparé à n'importe quoi. Toute créature peut être comparée à n'importe quelle autre créature, mais également toute créature peut être comparée à n'importe quel acte et être comparée à n'importe quel objet. Car on vous montre également le même processus qui se passe pour les arbres, le même processus qui se passe pour les animaux, mais là l'anthropomorphisme joue, mais également la nature subit dans le film le même processus exactement. Et je crois que c'est sur ces notions-là qu'est construit le film, et c'est sur cette notion-là que justement le film, contrairement à ce que dit cette dame, est une œuvre d'art.
De tous les films que je connaisse, c'est peut-être celui
qui pousse le plus loin cette idée, je crois, qui est très moderne et qui est extrêmement féconde, du cinéma conçu non plus comme un art de l'analyse, ce qui était traditionnel, mais comme un art de la synthèse.
J'en prie.
Ben Ayung a dit l'essentiel sur le film, film sur l'association, film sur la réflexion. Je crois tout de même, mais on ne voudra pas, de dire qu'il a omis un élément essentiel du film. C'est peut-être l'élément le plus neuf qu'il apporte au cinéma. À ma connaissance, c'est peut-être la première fois. À savoir que le film est fait aussi sur la participation. J'entends la participation du spectateur. C'est le premier film où le spectateur est invité à participer à ce qui se passe sur l'écran.
C'est-à-dire à être... Marianne Bad.
C'est-à-dire... Oui, il y a eu Marianne Bad.
Oh, il a pensé à Marianne Bad, d'ailleurs.
Mais enfin, c'est le... vraiment... pour la première fois, ou disons la seconde fois, si, pour être précis, où le spectateur est effectivement ici le sixième juré.
Ce film nous invite presque à considérer tous les films que nous voyons comme autant de fragments d'une œuvre gigantesque, n'est-ce pas, dont nous serions, nous critiques et vous, spectateurs, sommés en quelque sorte de trouver aussi la clé.
Un magma de pellicule, et ça va beaucoup plus loin, je crois que ça c'est très moderne aussi, notamment par rapport à la télévision, c'est que l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui qui vit dans la civilisation de l'image, a de plus en plus la vision d'une mouche. C'est-à-dire que le monde lui arrive comme un kaléidoscope, comme des petits fragments d'images qui, au lieu de l'informer, la plupart du temps, le distrait. C'est important.
Et avec lesquels il est obligé de reconstruire quelque chose, une interprétation personnelle.
Par son intelligence et sa sensibilité.
Par son intelligence et une recréation constante du réel à travers des aspects qui lui sont constamment présentés.
Et sa signification, car rien ne sert de voir si on ne regarde pas, et si on n'ordonne pas.
Sur un plan de construction plus général, je pense que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que dans le texte, il n'y a presque jamais un rapport immédiat entre ce qui est entendu et ce qui est vu.
C'est pas un commentaire, c'est un collage, au sens des passes, des collages surréalistes.
Mais il n'y a pas ce que le public est habitué à voir et à demander à un texte, une explication des images.
Il n'y a pas identité entre le commentaire et l'image, mais il y a rapport.
D'accord.
Monsieur.
Je ne vois pas pourquoi on met le texte en question alors qu'il fait justement partie du film pour dérouter le spectateur et le jury. Et puis dans un film, je sais pas, il y a beaucoup de films où il y a beaucoup plus de textes, mais on ne dit rien compte parce qu'il sert à élucider une action ou un truc du genre. Je pense
dans un film de Godard, il y a beaucoup plus de textes, mais il n'y a rien comme compte.
Mais non, je pense à...
Non, je crois que notre erreur serait de juger séparément dans un film semblable les images et le texte. Et je crois que s'il y avait des réserves à faire, moi j'en ferais, je n'ai pas le temps. Mais les réserves que je ferai sont précisément dans les rapports, les relations entre l'image et le texte. Oui. Mais dissocier, juger séparément les deux, je crois que c'est sans intérêt.
Monsieur demande la parole.
Je crois qu'il y a quand même une différence à marquer, parce que esthétiquement, toutes les images en couleur qui ont été prises par l'auteur, et ce qui m'a fort surpris d'ailleurs quand j'ai appris cela, toutes ces images en couleur, esthétiquement, ont un parti pris qu'on ne retrouve pas dans la description du jury. Où les images sont plates, laides, il y a une plongée où les ombres sont croisées, photographiées par n'importe quel opérateur. Il y a un contraste qui a tendance à souligner le côté verbal et gratuit de l'aventure.
Si on voulait faire une analyse du film au point de vue formel, c'est ça à quoi nous engage monsieur, on pourrait peut-être dire en trouvant des rapports, en cherchant un petit peu dans le passé... Le film peut être très bien situé à l'intersection de trois courants. Vous avez cité Marianne Bad, ça c'est pour la participation du spectateur. Mais il y a deux autres références à faire. C'est évidemment sans remonter au montage des attractions qui ferait plaisir à Mitri. Je veux parler du film de Rittmann. Là,
mais c'était très arbitraire. Bon. C'est plus visible maintenant.
Non mais d'accord, vous avez parlé de Jacopetti. Il est certain que le procédé des documents insolites, c'est le même procédé au départ. Et où j'ai mis un doute, moi, vous vous souvenez, c'est pourquoi j'avais posé la question à l'auteur à Cannes, dans la petite salle, c'est que je ne suis pas du tout persuadé, quoi qu'il en ait dit, qu'il ait conçu son film et surtout qu'il l'ait structuré comme il l'a prétendu. Moi, je croirais assez que le film s'est fait en deux temps. Il y aurait une première étape avec les documents et ensuite une utilisation de trouver une sauce pour agrémenter ça, qui est une idée géniale d'ailleurs.
Ah ben faut pas oublier que, enfin, le film le
il nous importe
peu. Kittle est tout de même mais aussi un plaisantin.
Non mais d'accord, ça expliquerait justement la réflexion de monsieur, à savoir que ce qui a été pris beaucoup plus tard, c'est-à-dire le juré, évidemment, n'a pas la qualité picturale du reste.
Nous avons surtout dit ses qualités, mais sa limite est là. À mon sens, si l'on juge le film, si on l'examine non pas du début à la fin, mais perpendiculairement, la relation constante entre l'image et le son, il y a d'excellents passages, d'excellentes réussites, mais très souvent, l'image n'est pas l'image que le commentaire suscite, la relation n'est pas optimale. À certaines phrases, on se dit, tiens, s'il avait utilisé tel procédé ou tel cadrage, ou tel autre exemple, ça aurait pu être mieux. Il me semble vraiment que ça a été fait en deux temps et que quelquefois, ça en souffre.
Il ne peut pas faire le film que vous attendiez et filmer de la manière que vous attendiez. Mais je crois que de toute manière, c'est une chose qui n'a absolument aucune importance, car je suis persuadé que si on avait donné à Ferdinand Kittel tout le matériel que Jacopetti a ramené dans ses deux ou trois films, les deux ou trois films qu'il a fait, qui sont des films ignobles, je suis certain qu'il en aurait tiré un film aussi génial que celui-ci, certainement.
Il n'en est pas moins vrai que ces plans dont il s'est servi et dont il a tiré un parti extraordinaire, s'il les avait prémédités, s'il les avait tournés en vue de cet effet, il les aurait peut-être tournés différemment ou composés peut-être un peu mieux. C'est ce que nous voulait dire.
Mais ça entre peut-être dans son projet, justement, d'avoir eu des documents qui soient de cette nature-là.
On pourrait peut-être, pour conclure, dire quelques mots sur le cinéma allemand, de l'Ouest allemand contemporain.
Ce serait plutôt à M. Alexandre.
Ce serait peut-être plutôt à M. Alexandre de nous éclairer, justement.
Après la guerre, on n'a pas produit de films parce que les ateliers étaient détruits ou endommagés, il n'y avait pas de pellicule. Ensuite, on a commencé à produire des films très bon marché, des films qu'on appelait Heimatfilm, des films folklore qui se passaient dans la forêt noire, en Bavière, etc. C'était des burlesques très banales qui marchaient très bien parce que le public était content d'entendre à nouveau des films parler allemand. Et les distributeurs qui sont devenus les gens puissants dans le cinéma allemand, les producteurs étaient plutôt des délégués. Ils n'ont pensé que de gagner de l'argent. Ils ont oublié qu'il y a aussi des pays étrangers qu'il faut penser un jour à l'exportation. Et on a oublié de penser aux jeunes qui pourraient développer de nouvelles idées. Alors, au début de cette époque, il y avait ce qu'on oublie aujourd'hui très souvent, une subvention de l'État qui était très intéressante pour les producteurs. Ça veut dire le gouvernement de Bonn et aussi le gouvernement des pays garantissaient aux financiers les sommes perdues. Comme ça, les producteurs arrivaient très facilement d'avoir comme financiers des banques. Mais quand il y a eu des grandes pertes, c'était fini et maintenant les producteurs étaient obligés de se débrouiller. L'exportation ne marchait pas. On est arrivé à une grande misère dans la production et maintenant on attend à nouveau l'aide d'État. Il y a, on peut dire, des bagarres parce que, par exemple, les exploitants, une grande partie ne sont pas d'accord parce qu'ils disent, pour nous, ça m'est absolument égal. Si nous jouons des films allemands ou des films étrangers, nous voulons faire des affaires. D'autre part, ils s'opposent aussi à ce nouveau plan de subvention, les délégués des églises et d'autres qui disent si on donne maintenant une subvention aux producteurs qui ont fait tout le temps de mauvais films, on ne peut pas sauver comme ça le cinéma. Et si vous me demandez ce qu'on a fabriqué d'intéressant depuis 2-3 ans. Alors, il faut parler surtout du film que nous avons vu aujourd'hui.
Parfait.
Vous savez, il n'y a pas d'expérience. Oui, il y a deux jeunes qui ont fait le fameux film que nous avons vu à Cannes, Das Brot der Frühjahre, de Wesely, n'est-ce pas? Mais c'était un ramassis d'éléments d'autres films ou d'anciens films d'avant-garde, aussi un peu de René, il y a des emprunts partout.
Monsieur Alexandre, pensez-vous que le salut qualitatif du cinéma allemand qui viendrait des indépendants et des jeunes, est-ce que pour l'instant ce n'est pas dans le court-métrage qu'on peut en trouver les prémices?
Il y en a quelques-uns qui sont intéressants, des créateurs de court-métrage comme Strobel ou ils travaillent ensemble. Mais surtout, ce qu'il faut trouver à nouveau, ce sont des producteurs comme Eric Pommer, Paul Davidson, etc. Parce que là commence tout, n'est-ce pas? Ce sont des producteurs qui sont des animateurs, qui sont des gens qui ont le flair de trouver des...
Je crois qu'il faut souhaiter au cinéma allemand de retrouver un nouveau Eric Pommer, parce que c'était lui le grand bonhomme tout de même de la production muette allemande.
Il n'y a pas de doute. Oui.
Et évidemment, et comme vous dites très justement, il faut un producteur, il faut des producteurs, et c'est peut-être ce qui manque le plus au cinéma allemand contemporain, car tout de même le film que nous avons vu ce soir nous laisse penser qu'il y a tout de même des créateurs en Allemagne et qui ont du talent.
Culture vient de vous présenter Connaître le cinéma, l'émission publique de Jean Mitry et Philippe Hainaut. Aujourd'hui, le cinéma allemand en République fédérale, avec la projection en avant-première du film de Ferdinand Kittel, Parallelstrasse, commentaires et débats avec la participation de Alexandre Alexandre, Robert Benayoun, Jean-Paul Terreuc et des spectateurs. Prise de son Maurice Grassi, régisseur de la scène Georges Richard, assistante de réalisation Nicole Guesveller.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 février 1965. Deux semaines plus tard était diffusée la suite logique de l'émission que l'on vient d'entendre, Connaître le cinéma allemand, celui de la RDA. Parallèle, comparaison, mais pas seulement.
France Culture vous présente Connaître le cinéma, l'émission publique de Jean Mitry et Philippe Hainaut. Aujourd'hui, le cinéma allemand contemporain en République démocratique, avec la projection du film de Konrad Wolf, Étoile. Commentaires et débats avec la participation de M. Bulavko, Michel Firk et des spectateurs.
Le plus simple pour étudier le cinéma d'Allemagne de l'Est, c'est de l'opposer point par point au cinéma d'Allemagne fédérale que nous avons évoqué la dernière fois. La production de la République démocratique est beaucoup moins abondante. Les films sont moins luxueux. Ce cinéma sacrifie généralement le divertissement à l'engagement politique et social. Et l'on peut dire qu'en moyenne, il est d'une meilleure qualité. Et qu'il a révélé depuis une vingtaine d'années un certain nombre de cinéastes qui sont d'un rang tout à fait honorable. On peut signaler au moins Wolfgang Staudt, Zlatan Dudov, qui avait déjà réalisé avant Hitler Kühl et Wampe avec Brecht, et Kurt Maitzig, jusqu'au jeune Konrad Wolf dont nous parlerons tout à l'heure.
En fait, dans ce cinéma, dont il faut bien dire qu'il est fort mal connu, on a vu quelques œuvres très remarquables, mais ces œuvres étaient elles aussi exceptionnelles. Maintenant, il est évident que le cinéma de cette Allemagne est assez analogue dans ses directives, sinon dans ses formes ou dans son style, est assez analogue au cinéma soviétique, avec tout ce qu'il peut y avoir de différent entre un tempérament russe et un tempérament allemand, bien entendu.
Oui, on peut dire que c'est un cinéma exemplaire des démocraties populaires, avec tout de même le cas particulier de l'Allemagne de l'Est. La situation en Allemagne de l'Est est plus difficile et plus fragile que dans les autres démocraties populaires, puisqu'il s'agit tout de même d'un État artificiel, pauvre, et qui est en lutte avec son voisin du fait de la coupure de l'Allemagne.
C'est ce qui fait aussi que la plupart de ces films sont des films de propagande. Ce sont des films qui propagent des idées sociales, mais qui les propagent très adroitement et très intelligemment.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est que comme dans tous les pays socialistes, le cinéma est mobilisé au service de l'idéologie, et que c'est l'idéologie qui conditionne la formule même du cinéma. Et écrire l'histoire du cinéma en Allemagne de l'Est, c'est d'abord écrire l'histoire de l'Allemagne de l'Est depuis 20 ans. Le cinéma a pour fin d'informer, de cultiver et de propager un certain nombre d'idées.
Il est évident que dans ce cinéma-là, comme dans tout cinéma, c'est la forme qui crée le style, mais malgré tout, la forme est tout à fait dominée par le contenu. Il est d'ailleurs significatif que le premier film qui a été produit en Allemagne de l'Est immédiatement après la guerre a été un film anti-nazi. Les assassins sont parmi nous. La première propagande a été une propagande, si vous voulez, de dénazification.
Ce cinéma, depuis 20 ans, a tout de même évolué suivant les cinémas des démocraties populaires. C'est-à-dire qu'il y a eu une première période qu'on peut appeler, si vous voulez, l'époque des ruines. Le cinéma en Allemagne de l'Est se reconstruit en 1946, après la nationalisation, bien entendu. C'est la création de la DEFA, un trust d'État qui est le correspondant, si vous voulez, de ce qu'a été la UFA pour l'Allemagne de l'Ouest à la grande époque. Cette époque de la reconstruction eh bien, nous présentait essentiellement le reflet des difficultés et des problèmes de ce pays en ruine, vaincu, qui avait à reconstruire un pays suivant une idéologie qui n'était pas acceptée d'avance par le peuple. La deuxième époque, ça a été une expansion de ce cinéma. On a reconstruit et embelli les studios de Neubabelsberg dans la banlieue de Berlin. La production a augmenté, les films ont eu plus de moyens, plus de prétentions aussi. Et ça a été l'essor d'un cinéma de type réaliste socialiste, suivant les canons, au fond, du jdanovisme. C'était du cinéma, disons, de type stalinien, mais qui applique ce schéma, ces schémas, ces idées, aux réalités allemandes, avec les préoccupations que nous disons. Et puis, depuis la mort de Staline, avec la déstalinisation qui est beaucoup plus lente dans ce pays où le régime est assez dur, eh bien, il y a une lente évolution et qui est accélérée par l'apparition d'un certain nombre de jeunes. Donc, je crois qu'il faudrait revenir sur les types essentiels des films. Vous avez dit le nazisme.
Les types essentiels des films, c'est le nazisme, c'est le prussianisme, le caporalisme, la caractéristique essentielle de l'Allemagne à la fois hitlérienne, oui, et de l'Allemagne de Guillaume II. Et
vous avez cité les assassins sont parmi nous. Il y a eu tout de même aussi l'affaire Blum, jusqu'à Lissy. C'est la dénonciation systématique du régime hitlérien. C'est un gros bon point, je crois, qu'on peut donner à ce régime. C'est qu'on y a pris très, très au sérieux la dénazification. Après la dénonciation du nazisme, l'essentiel, c'est l'évocation des luttes du passé, la contestation du passé social, avec la dénonciation systématique du système bourgeois, le cas du Conseil des Dieux, je crois que c'est très évident, et plus lointainement, ça se sent même dans les adaptations des grands romans, des grandes œuvres littéraires. Pensez aux quatre grandes coproductions que nous avons faites avec l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire Les Sorcières de Salem, Raymond Rouleau, Les Misérables de Le Chanois, La Rabouilleuse de Daquin et Il l'Espiègle de Gérard Philippe. Eh bien, ce sont quatre œuvres littéraires bien connues, mais qui ont été réalisées en Allemagne de l'Est sous une optique de critique sociale.
Et aussi, en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler la propagande sociale, il y a un autre film de Kurt Maltzisch qui est consacré à Thälmann.
C'était le créateur du Parti communiste allemand. C'est un film énorme d'ailleurs, c'est un énorme diptyque. Et on peut dire que c'est un exemple probant de l'exaltation des luttes ouvrières qui sont le corollaire de ce qui précède. Pour évoquer les luttes des communistes contre le régime nazi, il y a au moins deux films très importants, c'est Rotation de Staudt et Plus fort que la nuit de Dudoff.
Et d'ailleurs, le Thälmann est un film assez ancien, un film qui a été réalisé sous le régime stalinien et qui correspond sur le plan allemand exactement au film stalinien, oui, que l'on produisait en Russie, c'est-à-dire toujours l'exaltation d'un héros, d'un personnage qui reflétait une aspiration collective.
C'est de la géographie pratiquement.
De la géographie, exactement.
Et enfin, évidemment, il y a des films qui s'intéressent depuis le début aux problèmes d'actualité. Et dès la libération, par exemple, au moment même des ruines, un homme comme Zlatan Dudoff, dans plusieurs films, dont Destin de femme et Notre pain quotidien, a posé les problèmes de la reconstruction du pays. Et puis, progressivement, on a évoqué un certain nombre de valeurs qui pouvaient aider à la transformation du pays, notamment la solidarité. Solidarité nationale, solidarité internationale du camp socialiste, avec une exaltation de l'avenir qui est présenté comme meilleur. Ce sont Les Lendemains qui chantent, et par exemple, il faut rappeler les films qui ont été commandités à Joris Ivens. Mais ce qu'il y a tout de même d'assez remarquable, c'est que les meilleurs films d'Allemagne de l'Est n'ont pas été réalisés sur la vie contemporaine. Il semble que les cinéastes, au moins jusqu'à ces dernières années, aient reculé un petit peu devant l'analyse et la critique des réalités contemporaines parce que l'idéologie était un peu contraignante et au fur et à mesure que le régime se libéralise, les jeunes surtout essaient de porter un regard plus authentique, plus réel sur la société contemporaine. Et c'est ce qui fait certainement l'intérêt d'un cinéaste comme Konrad Wolf. D'abord, il a du talent, il est intelligent, il est sincère et il essaie de rompre dans son pays avec toutes les conventions, tous les schémas, toutes les contraintes du cinéma stalinien précédent. Et un film comme Étoile va vous surprendre, je l'espère, parce qu'il y a un changement de ton. Il y a un ton nouveau, cela vient évidemment de son scénariste aussi, mais il y a la volonté de rompre avec les héros positifs, les situations un peu artificielles, les dénouements prévus d'avance. On essaie d'éliminer tout le schématisme et la propagande facile. Vous verrez qu'il y a d'abord la volonté de traduire les problèmes au niveau de l'immédiat, du concret et de la personnalité. Ce sont des problèmes vécus individuellement et progressivement de tirer quelques leçons générales, mais le spectateur participe et tire de lui-même la conclusion. Il y a dans tout cela plus de vérité, plus de simplicité, plus d'authenticité. Et vous verrez que du point de vue de la réalisation, Étoile est un film assez classique, c'est le contraire de Parallelstrasse, ce n'est pas un film révolutionnaire du point de vue de la technique, de l'expression, mais vous verrez comme son style est aussi simple, fluide, et sans anticiper sur la discussion, je crois que vous serez touché par le fait que ce sujet qui a été souvent traité, il ne sera jamais trop d'ailleurs, de la déportation des Juifs, est traité avec un souci d'être vrai avant d'être efficace. Et je crois que c'est le premier mérite de ce film, que l'attitude des auteurs soit celle de la dignité.
En 1943, dans une petite ville bulgare occupée par les nazis, s'arrête un convoi d'israélites grecs en route pour Auschwitz. Un jeune sous-officier allemand, Walter, s'éprend d'une déportée, Ruth, dont le courage et l'abnégation l'émeuvent. À son contact, Walter prend conscience d'être devenu par conformisme le complice d'un crime monstrueux. Il mettra tout en œuvre pour sauver Ruth, mais ses efforts seront inutiles. Désespéré de ne pouvoir arracher la jeune fille du train qui l'emmène vers la mort, Walter, résolu à combattre dorénavant le mal nazi, rejoint les partisans bulgares. Nous allons commencer la discussion de ce film en compagnie de M. Bulavko, qui était lui-même déporté, et de Michel Firk, qui, à la sortie du film, l'a soutenu.
Je crois qu'on pourrait demander d'abord à M. Bulavko de nous parler un petit peu du film, relativement à son contenu surtout, puisqu'il a eu hélas, la tristesse d'être déporté et de connaître ce dont le film nous a entretenu ce soir, de vivre cette situation, il peut peut-être nous dire dans quelle mesure le film retrace avec exactitude un certain état de choses.
Eh bien, je pensais assister ce soir, en vérité, à un film sur les camps, et alors mon rôle aurait été d'apporter un témoignage sur la vie des camps, ce qui n'est pas le cas ce soir. Cependant, le film que je viens de voir m'a impressionné dans ce sens qu'il présente un aspect de la guerre, de l'occupation, assez rare, mais aussi exact. Il faut tout de même dire que ce n'est pas pour rien que ce soit les Bulgares qui aient produit ce film en coproduction avec les Allemands de l'Est. Il se trouve que la Bulgarie est un des rares pays d'Europe, avec le Danemark, je crois que c'est le seul, dont les Juifs n'ont pas été déportés. Et pour la bonne raison que lorsque les Allemands qui ont occupé le pays ont voulu imposer des lois raciales, notamment le port de l'étoile et tout ce qui s'est ensuivi, la population bulgare s'est solidarisée avec les Juifs. Les Bulgares ont tous décidé de porter l'étoile jaune. Et en fin de compte, il a été pratiquement impossible aux Allemands de séparer les Juifs du reste de la population. Et très rapidement, les autorités allemandes, la Bulgarie n'était pas en vérité un pays occupé, puisque c'était un pays, disons, allié. Mais très rapidement, les autorités allemandes ont été obligées de renoncer à leur œuvre d'organisation de la déportation, qui aurait fait que 45 000 Juifs qui vivaient à ce moment-là en Bulgarie auraient connu le sort qu'ont connu les Juifs de Pologne, de Russie, de France, de Grèce et d'ailleurs. Ce film ne rend pas suffisamment hommage à l'action du peuple et de la résistance, puisqu'elle a choisi de donner la vedette ici à un Allemand, qui est un phénomène, et je pense que cet Allemand a vécu, parce qu'il me souvient dans des ouvrages sur la résistance en Europe, j'ai en effet entendu parler d'un sous-officier allemand qui a aidé les Juifs, qui a aidé les résistants, et qui a été lui-même ensuite déporté ou tué par les Allemands. Je dois dire, pour expliquer qu'il y a tout de même eu des déportations de Bulgarie, que, comme vous l'avez vu dans le film, ce ne sont pas des Juifs bulgares qui ont été déportés, mais des Juifs grecs de la partie occupée par les Bulgares. Et là, les Bulgares n'ont pas eu la possibilité, la population n'était plus la même, et n'ont pas eu la possibilité de s'y opposer. C'est pourquoi des déportations ont eu tout de même lieu. Je crois que c'est le point numéro un qu'il fallait souligner si l'on veut comprendre la portée de ce film.
Oui, maintenant, je crois qu'il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels vous pouvez nous faire avancer tout de suite. Il me semble que c'est un film qui porte sur des grands thèmes bien compliqués, bien difficiles, le thème de la responsabilité, de la conscience et de la solidarité. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, qu'est bien exprimée dans le film cette notion qu'on trouve souvent dans les témoignages de déportation de Juifs, cette notion de la communauté à laquelle on appartient et qu'on ne doit pas quitter dans le sacrifice? Et de l'autre côté, est-ce que vous trouvez juste ce catalogue des situations, des portraits d'Allemands? Est-ce qu'il pouvait y avoir tout cet éventail jusqu'à du cynisme, jusqu'à la prise de conscience d'un Allemand face au génocide?
Il se trouve que, aussi bien à Auschwitz qu'après Auschwitz, j'ai toujours essayé de découvrir s'il y avait parmi les Allemands qui sont occupés de nous, parce qu'il y en a eu quelque chose comme 200 000, je crois, qui ont été chargés spécialement de s'occuper de la solution finale de la question juive. Eh bien, je me suis toujours demandé s'il y avait parmi eux des gens qui avaient des réactions humaines. Car en fait, lorsqu'on présente des films sur les camps et qu'on caricature les personnages, ils sont à peine caricaturés. En vérité, les Allemands que nous avons connus là, qui étaient gardes de camp, hommes et femmes, je parle aussi pour les camps des femmes, avaient atteint un tel degré de bestialité qu'il était difficile pour nous de nous imaginer qu'ils étaient des êtres humains, alors que pour eux, nous n'étions plus des êtres humains. Les Juifs, nous étions des êtres, des créatures inférieures aux chiens, à la bête.
Ça, les sous-hommes.
Exactement, nous avons connu des sous-officiers qui choyaient leurs chiens, qui s'amusaient avec, mais qui n'avaient qu'un regard de mépris pour nous, qui n'existions pas à leurs yeux. Alors il se peut que la psychanalyse aidant, on peut comprendre leur attitude envers nous. Mais enfin, parmi eux, j'ai essayé de savoir s'il y avait eu tout de même quelques-uns qui avaient des réactions humaines. Je ne peux pas dire non, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y en a eu, mais peut-être ce sont les exceptions qui confirment la règle. Mais enfin, j'ai connu dans un commando près d'Auschwitz un Allemand de ces régions occupées qui avait décidé de rejoindre les SS, très probablement pour éviter d'être envoyé sur le front de l'Est, et qui avait été affecté à la garde du camp. Nous ne l'avons jamais vu frapper. Au contraire, il faisait un geste qui était déjà un geste important pour nous, il jetait une cigarette de temps en temps. C'était un phénomène, c'était un cas. D'ailleurs, il est arrivé avec lui une histoire extraordinaire. Un matin, on nous a rassemblés pour l'appel, comme d'habitude, quand il y a quelque chose de spécial. C'est pas l'appel dure une heure, deux heures, trois heures. D'ailleurs, ceux qui ont participé à de tels appels peuvent comprendre qu'on dorme debout, comme on a vu dans le film. nous dormions pratiquement debout parce que nous étions épuisés de la nuit qui était très brève. Eh bien, cet appel, on se demandait pourquoi. Et on pensait qu'un des nôtres avait réussi à s'échapper, ce qui était extraordinaire là-bas, et difficile, pratiquement irréalisable. Il n'y a eu que des cas isolés. Et en fait, c'était cet Allemand qui, placé à la porte du camp pour nous surveiller, était parti avec armes et bagages. Il est vrai que c'était quelques mois avant l'arrivée des Russes, ou quelques semaines, je ne me souviens plus de la date, et que celui qui avait choisi de rester là pour éviter le front avait choisi également la liberté à ce moment-là. Si nous l'avions su dans la nuit, peut-être aurions pu en profiter, mais malheureusement, nous ne l'avons pas su. Mais il y a eu des cas, mais c'était des cas isolés. Quant aux personnages allemands qui sont présentés ici, ils sont un peu exceptionnels. Même le lieutenant, qui est assez dur, impitoyable, reste tout de même humain. Oui. À aucun moment, lui-même ne maltraite les gens. Il est tout à fait inconscient. Le seul sadique qui intervient une seconde, c'est seulement cet officier supérieur qui voit le héros du film en train de dessiner et qui le traite de Rembrandt, n'est-ce pas? Mais il passe, il a perçu, il ne joue aucun rôle. Et en fond, les personnages que nous avons, n'est-ce pas, ils sont idéalisés. Il y a le lieutenant inconscient qui participe à quelque chose d'horrible, mais sans s'en rendre compte tout à fait. Et il y a ce jeune sous-lieutenant qui, par un concours de circonstances, n'est-ce pas, s'est trouvé engagé dans une guerre à laquelle il ne croit pas, à laquelle il ne voudrait certainement pas participer, et qui, ici, a des réflexes humains que nous comprenons, mais qui, dans des circonstances données, représente tout de même un acte de courage.
Oui, merci.
Je vous en prie, monsieur.
Je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a eu une évolution vers la bestialité, en somme, dont vous parliez, pour ce qui est des soldats allemands, je veux dire de 43 à 44, enfin, ou bien d'un pays où on n'était pas directement à côté des camps, jusqu'au camp eux-mêmes.
La seule évolution que j'ai remarquée, c'est tout d'abord, il y a deux phénomènes. Il y a tout d'abord l'âge de nos gardiens qui a diminué par la suite. Ce qui prouve qu'en 1944, les pertes des Allemands les ont obligés à mobiliser, y compris dans des troupes spéciales, dites SS, des jeunes de 16-17 ans. Et je regrette, je ne veux pas, je suis loin de jeter la pierre à la jeunesse, et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui mérite mieux. Les jeunes de 17 ans que j'ai connus là-bas n'étaient pas plus mal préparés à leur tâche d'exterminateur que les anciens. Je me souviens, et j'ai toujours été impressionné par le souvenir de ce jeune garçon de 16 ans qui était un peu gros, joufflu, qui faisait bébé cadom un petit peu et qui s'amusait à étrangler les gens avec un lacet de cuir. On avait dû lui apprendre ça ou d'autres choses dans les camps spéciaux dans lesquels on formait les SS destinés à Auschwitz et aux camps d'extermination. Maintenant, le deuxième changement que j'ai remarqué était dans la dernière phase de la guerre, lorsque les Russes approchaient et prenaient pratiquement une ville après l'autre, et que les Allemands, les SS qui nous gardaient, sentaient que c'était fini et qu'un jour, peut-être, il faudrait régler les comptes ou rendre des comptes pour ce qu'ils avaient commis comme assassinat, meurtre, pillage, etc. Eh bien, il y a eu une attitude de désarroi chez eux, et même à plus d'une reprise, certains d'entre eux s'approchaient de nous pour nous parler, ce qui était déjà un acte inattendu, et nous demander, il s'adressait à ceux qui connaissaient l'allemand, et comme je parle un peu, on m'a demandé, notamment, un d'entre eux m'a demandé, que ferez-vous de nous si les Russes viennent ici? Ils étaient inquiets, et cette inquiétude a, dans une certaine mesure, tempéré leur cruauté. D'ailleurs, à Auschwitz même, lorsque les Russes se sont trouvés non loin de là, on a commencé à faire sauter les fours crématoires et les chambres à gaz pour essayer d'anéantir le témoignage des forfaits qui avaient été commis, mais ils n'ont pas réussi d'ailleurs tout, puisque aujourd'hui, ceux qui visitent Auschwitz peuvent encore retrouver intacts des chambres à gaz et des fours crématoires.
Est-ce qu'il est exceptionnel que vous soyez resté si longtemps?
Je veux dire. Je suis resté personnellement de juillet à fin janvier. J'étais libéré par les Russes fin janvier. Ce n'est pas tout à fait exceptionnel dans la mesure où la période la plus difficile, je pense, était jusqu'à 1944. Parce que, comme je vous le disais à l'instant, le fait que la défaite allemande a amené les Allemands, qui nous gardaient également, les SS, à adopter d'autres attitudes. Tout d'abord, ils ont commencé à avoir besoin davantage d'hommes, ils nous utilisaient pour travailler, vraiment dans des usines d'armement, dans des usines de caoutchouc synthétique. Personnellement, on a voulu me faire participer à la construction d'une usine électrique que je n'ai pas terminée, je regrette pour eux. Enfin, ils essayaient de nous utiliser, donc ils avaient besoin de nous, alors qu'au début, ils n'avaient pas tellement besoin de nous. Il y a eu des périodes, il y a eu des incidents contradictoires la même année. Alors qu'ils utilisaient au maximum ce qu'ils pouvaient utiliser pour le travail, des convois sont arrivés à ce moment-là de Hongrie et de Grèce qu'ils ont exterminés immédiatement et intégralement parce qu'il n'y avait pas de place dans les camps. Ce n'était pas du tout, à ce moment-là, pas cruauté, c'était parce que dans leur plan, vous savez que les Allemands font tout d'une façon très planifiée, dans leur plan, il devait arriver tant de gens, et comme les camps étaient bondés à ce moment-là, eh bien, des convois entiers sont arrivés, et tout le monde, sans qu'il y ait sélection, c'est-à-dire sans qu'on trie ceux qui pouvaient travailler tout le monde est allé dans les camps. Mais ça, je crois que c'était, à cette période-là, c'était exceptionnel. Là où il y a eu beaucoup de victimes, c'est durant l'évacuation. Ils n'avaient pas du tout les moyens de les évacuer vers l'intérieur, mais ils en ont reçu l'ordre. Et alors, pour mon convoi, qui comprenait dans les 3 500 personnes, je pense que dans les 5 premiers jours, ils en ont tué près de 1 500. Au début, ils tiraient sur ceux qui traînaient un peu. Après, ils ont commencé à tirer au hasard pour terroriser, parce que je crois qu'ils avaient peur eux-mêmes. Alors, ils voulaient nous transférer leur peur. Et puis, en fin de compte, ils tiraient avec des... On m'a même dit qu'ils tiraient avec des balles de dum-dum, des balles explosives, pour être sûr de ne pas laisser de survivants derrière eux. Ils organisaient ensuite, de temps en temps, des tas de corps qu'ils brûlaient. Mais c'est dans cette période-là qu'il y a eu beaucoup de pertes. Sinon, je pense que l'année 44 n'a pas été la plus terrible pour ceux qui étaient dans le camp. Mais je vous signale que des convois entiers n'ont pas eu accès au camp, ils étaient dirigés directement vers les chambres à gaz. Je ne crois pas que sur le plan psychologique, je puisse parler d'une évolution. Je crois que les gens qui nous ont gardés avaient été formés pour tuer, pas seulement des juifs, on a tué des millions de prisonniers soviétiques, on a tué des résistants de tous les pays. Quant aux Polonais, on les mettait dans les mêmes camps que nous. Je ne parle pas ici des conditions spéciales qui ont été faites parce qu'ils étaient sur place, ils avaient des contacts avec la famille, ils avaient des colis, ce qui leur donnait un avantage sur nous. Mais enfin, les Allemands avaient organisé des camps d'extermination. Du début à la fin, je pense qu'à aucun moment, ils n'ont renoncé à leur idée. Et s'il y a eu des moments où ils ont flanché, c'est uniquement par crainte.
Bon, je crois que Michel Firk voulait dire quelque chose.
Oui, de la situation du film lorsqu'il est sorti ici. Vous en prie, Michel Firk. Oui.
Non, je voulais enchaîner sur ce que disait M. Boulafko. Je pense que le comportement des Allemands qu'on voit sur l'écran est tout à fait vraisemblable. Du moins, moi, il m'a paru très vraisemblable parce qu'il ne faut pas oublier de dater justement l'époque à laquelle se situe le film. Et pas oublier de voir ce qu'il s'est passé dans la vie de ces Allemands avant le film. En effet... ils ont tous les deux fait la campagne de Russie, ils ont été à Leningrad et ils sont revenus profondément dégoûtés. L'un, Walter, a perdu ses deux frères à la guerre et on peut vraisemblablement supposer qu'eux-mêmes ont évolué à l'intérieur de la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en Bulgarie avec la sensation qu'ils arrivaient dans une planque et qu'enfin ils allaient pouvoir oublier tout ce qu'ils avaient vu avant, l'horreur de la guerre qu'ils soulignent à diverses reprises. L'un prend cette planque pour essayer d'en tirer toutes les jouissances possibles, faire bien manger, trouver des filles, passer le temps agréablement, un petit paradis, comme il dit lui-même. Et l'autre se livre à son passe-temps favori, la peinture, en s'efforçant d'oublier absolument pourquoi il est là et ce à quoi il sert. Et je pense que si on les avait pris à une autre époque de la guerre, peut-être les réactions auraient-elles été différentes. Et cette histoire qui se passe entre la jeune juive et l'allemand aurait pu ne pas exister si ça s'était passé quelques années ou quelques mois auparavant, je pense.
Oui. Monsieur Boulafko.
Il me semble que ce n'était pas des SS, c'était des soldats de la Wehrmacht.
Oui, il y a ici une nuance qu'il faut souligner. Oui, certainement, oui.
Quelqu'un dans la salle, oui.
Madame.
Monsieur Hérault a dit tout à l'heure que ce film méritait un gros bon point parce que ce film était resté très digne. C'est ce que j'ai constaté avec énormément d'émotion. Et je m'aperçois, et ça c'est pas du tout bien, que le débat prend un tour raciste. Alors, je ne suis absolument pas pour le nazisme. Seulement, un membre de la famille que j'ai connu très bien jusqu'à ce que j'ai 12 ans est revenu de déportation. Je ne suis pas juive. Il était français aussi. Seulement, il avait aidé les juifs. Et en plus, on habitait l'Est. Il a passé 5 ans en camp de déportation. Il ne nous a jamais raconté ce qui s'était passé. D'ailleurs, il a peut-être raconté, mais en tout cas, je n'ai pas entendu. Je sais seulement que cet homme, qui est quelqu'un que j'admirais beaucoup, a gardé un grand respect pour les Allemands, et je l'ai entendu dire plusieurs fois, oui, bien sûr, ils ont fait ça, mais est-ce que tous sont responsables? Est-ce que c'est une raison pour les juger tous? Est-ce que c'est une raison pour les mettre tous dans le même sac? Et d'autres... Je n'ai pas fini.
Chut, s'il vous plaît, laissez parler.
J'ai une camarade d'une autre nationalité qui est allée en Allemagne cette année. J'ai d'autres amis qui sont allés en Allemagne aussi. Et qui ont constaté que c'est un pays où vraiment je ne voudrais pas habiter. Je ne pense pas non plus que j'aimerais y habiter. Je ne pense pas que je m'accorderais avec la mentalité allemande. Mais je ne crois pas que ce soit une raison pour condamner en bloc toute une masse humaine. Ce sont des gens comme nous. Peut-être qu'ils ont une autre mentalité. Peut-être qu'ils sont plus rigides. En effet, quand on va dans les auberges de jeunesse, c'est intenable. Bon, mais ce n'est pas une raison.
Bon, je crois que la réponse...
Je voudrais dire un mot tout de même. Je suis d'accord... Il ne faut pas faire de racisme. Je ne pense pas que nous en fassions ici. Mais il ne faut pas non plus faire du racisme à rebours, parce que ça devient une autre forme de racisme.
Ben, Michel Firk répond.
Moi, je voudrais répondre aussi et dire qu'on ne met pas tous les Allemands dans le même sac, étant donné que le metteur en scène de ce film est un Allemand qui s'appelle Konrad Wolf.
C'est pas le film qui est en cause.
Le film méritait vraiment.
Bien sûr.
Non, mais quand vous dites qu'on a cette réaction vis-à-vis de tous les Allemands, je pense que ce film a été fait lui-même par un Allemand et que ce qu'il dénonce, c'est le nazisme, ce n'est pas du tout le fait d'être Allemand.
Ce que je trouvais mauvais, c'était le début du débat qui était quelque chose qui devenait insupportable après un film pareil. Je ne sais pas, évidemment, je n'ai pas l'âge de monsieur. J'ai énormément de respect pour tous les gens qui ont souffert, quelle que soit leur souffrance, et à plus forte raison quand, c'est comme ça, ils y sont pour rien. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on se mette à déballer des vieilles histoires. Il faut les déballer, il faut qu'on les...
Elles ont existé ou non ?
Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Je crois... Elles ont... Ce qu'elle a dit. Ces histoires ont existé ou non ?
Il faut qu'on nous apprenne, à nous les jeunes, ce qui s'est passé, parce que nous voulons savoir.
Eh bien, justement...
Je ne suis pas d'accord avec Hitler, ne connaît pas.
Et de toute façon, le problème n'est pas là. De toute façon, nous avons demandé... Nous avons demandé...
Une seconde, s'il vous plaît. Une seconde.
Nous ne sommes pas ici pour nous battre.
Mais non, je voudrais qu'elle reste pour entendre la réponse.
Une seconde, madame, nous vous pourrions de rester.
Je vous en
prie.
Je voudrais lui donner ma réponse aussi parce que je crois que.
Parce que puisque on voudrait tout de même pouvoir vous répondre. Il est logique que sur un film qui traite une question que beaucoup, heureusement, d'entre nous ne connaissent pas d'expérience, nous ayons demandé à des gens qui ont malheureusement vécu cette expérience de venir nous dire si le film était authentique ou inauthentique. Je pense que c'était l'essentiel.
Bon, alors, bien. Madame...
J'étais à La Santé, j'étais à Charenton et j'étais à Fresnes. Bon, eh bien, il y avait parmi les Allemands, je parle des militaires allemands, des gens parfaitement comme vous et moi. Oui, qui savaient... Écoutez, j'avais très mal aux dents à l'époque... Eh bien, écoutez, j'ai crié toute une nuit. Eh bien, il y a des Allemands en uniforme qui sont venus, qui m'ont dit, qui ont ouvert, qui m'ont dit, chut, pas un mot. Et alors, on m'a passé des cachets. Bien. Eh bien, je peux vous en parler.
Une seconde.
Savamment, mon mari était juif. Bien. Mon fils est demi-juif. Par conséquent, je peux vous parler absolument consciencieusement et honnêtement. Je veux simplement dire, il y en avait comme ça, il y en avait comme ça. Et il y en a aujourd'hui comme ça et comme ça. Et dans tous les pays du monde, c'est pareil.
Mais
parce que j'ai voyagé en Europe. Écoutez, j'ai trouvé des mauvais et des bons partout.
Mais naturellement.
Eh bien, voilà.
Je crois que
merci.
Je vais à Monsieur Bulafko de répondre puisque c'est lui qui a été mis en cause sur le thème de la responsabilité collective.
Je voudrais bien vous rendre à la discussion du film parce que je crois que ce sont surtout des amateurs de cinéma qui sont venus, mais on a présenté ce soir.
Mais c'est absolument lié.
Mais on a présenté ce soir un film qui pose des questions et s'il y a des gens dans la salle qui en posent, je pense qu'ils ont le droit à obtenir une réponse, même quand j'estime que la question qui m'a été posée était injuste. Je n'ai pas eu le sentiment à aucun moment d'avoir fait acte de racisme en parlant. J'aurais pu très facilement mettre en cause le peuple allemand et à une autre occasion, peut-être, si j'en avais le temps, je vous aurais donné ma conception, la responsabilité collective, dans quelle mesure un peuple peut être tenu pour responsable de ce qu'un gouvernement ou des hommes issus de son sein ont commis en son nom. C'est un problème qui n'est pas spécialement dans le cadre de la discussion, mais lorsqu'on me dit que j'ai fait du racisme parce que j'ai mis en cause les gens qui ont participé à quelque chose qui dépasse l'imagination. Parce qu'au fond, et c'est cela que je voudrais vous dire simplement, si 6 millions de Juifs européens ont été exterminés, c'est parce qu'ils ne savaient pas, et on le montre dans ce film, ils ne savaient pas où ils allaient, ils ne pouvaient pas imaginer que des êtres humains inventeraient cet enfer qui s'appelait Auschwitz et qui avait d'autres noms d'ailleurs, dans lequel on aurait assassiné d'une telle façon scientifiquement préparée des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards. Je n'essaie pas, je ne voudrais pas. Je pourrais très facilement vous émouvoir en vous racontant quelques souvenirs autres que ceux que Madame évoque à l'instant. Peut-être essayer de vous faire comprendre, mais je ne suis pas, je n'y ai pas été, je n'ai pas été témoin, vous faire comprendre ce qu'ont pu ressentir les gens qui étaient enfermés dans une chambre à gaz où pendant 7 minutes ils agonisaient avant de mourir. Peut-être j'aurais pu vous décrire un certain nombre de scènes dont j'ai été témoin. Et peut-être que certains qui ne sont pas racistes auraient eu des sentiments de ce genre vu s'éveiller en eux. Je ne veux pas. Ce n'est pas là l'objectif. Ce que je veux surtout, c'est vous dire ce qu'un de mes amis, un médecin israélien, disait récemment. Si on n'avait pas permis le massacre des Arméniens, peut-être aurait-on évité d'autres massacres par la suite. C'est lorsque les gens se taisent devant des massacres comme ceux d'Arménie, comme ceux d'Auschwitz, comme ceux qui ont lieu d'ailleurs dans d'autres pays, c'est à ce moment-là que le racisme s'instaure, c'est à ce moment-là qu'il devient dangereux. Et lorsque nous venons autour d'un film comme celui de ce soir, dénoncer le racisme, il faut bien se comprendre.
Bien, merci. Monsieur.
Je me demande si le réalisateur n'a pas donné libre cours à son imagination quant au texte, comme il a donné apparemment à son esthétisme, si on veut, à ce qui concerne les moyens cinématographiques, par exemple le cadrage, les plans. Alors, j'en ai une impression, si surtout on pense à des films qu'on a déjà vus, comme Debrinitz sur les ghettos terrésiens, le thème n'était pas exactement le même. Bon, alors si on passe à ce film-là, je crois qu'en voyant ce film qui, bien sûr, c'est un film à thèse, bon, très bien, il examine ses cas, je crois qu'on est vraiment gêné par cet esthétisme, de cette machine un peu lourde qu'on constate dans le film. Comprenez pas?
Croyez-vous qu'il y ait tellement d'esthétisme ou d'esthétique dans ce film? Il est simplement...
Esthétisme, je dis.
Quand il est simplement correctement fait, mais je ne pense pas du tout qu'il y ait une assistance formelle, parce que même à mon avis, sur le plan strictement formel, il serait même du cinéma de papa, tout à fait, même de grand-papa.
Pas de papa,
c'est conventionnel.
Michel Fier veut dire deux mots, j'en prie.
Je pense que ce que monsieur appelle esthétisme, c'est peut-être les plans qui ont lieu la nuit entre le soldat et la jeune fille. Où il y a des surimpressions, c'est peut-être cet aspect-là.
Les plans du clocher, les plans de la gare, il y a tas de choses à voir.
Les plans de la gare sont simplement bien éclairés. Les plans dont parle Michel Firk, là, justement, ce serait peut-être, à mon avis, les seules choses qui seraient mauvaises dans le film. Alors ça, c'est du cinéma de 1914.
Moi, je pense en tout cas que ce qu'a voulu faire l'auteur, c'est au contraire donner d'un côté l'aspect quotidien de la chose, parce qu'en fin de compte, on voit tous ces gens-là dans leurs occupations normales. Et d'autre part, il a voulu faire une rupture complète de ton dans les scènes entre le soldat et la jeune fille, donner un sentiment poétique et donner ce sentiment qu'ils éprouvent tous les deux, qu'à ce moment-là, ils vivent complètement en dehors du temps. Maintenant, je ne dis pas que c'est tout à fait réussi, les surimpressions. Mais... du moins, j'explique ce que je pense que l'auteur a voulu faire.
Sûrement.
Donc,
sûrement,
je trouve en effet plus contestable les plans, les surimpressions, le visage, le rêve vers les étoiles. Mais moi, je trouve extrêmement remarquable et parfaitement réalisé toute la vie quotidienne du camp.
Oui,
et je pense justement que c'est ce film-là et peut-être La Passagère, enfin le film incomplet de Munch, qui donne du camp d'abord un aspect vu par les Allemands et non pas vu par les victimes, et d'autre part un aspect presque quotidien. Et je m'excuse de prononcer ce mot justement quand il s'agit de l'horreur, mais le quotidien de l'horreur qui devient presque banal. Et je trouve que ça, c'est très réussi.
Oui. Monsieur, dans le fond...
C'est un film choc. En effet, c'est un film tel que je voudrais que le cinéma mondial soit, montrer aux gens quelque chose en disant maintenant, eh bien, tâchez d'y penser. Et la dernière parole du film, qui est « Souvenez-vous », eh bien, donne vraiment, ouvre le débat. Et pour moi, un film, c'est ça. C'est une histoire qui permet aux gens ensuite, entre eux, de discuter sur un problème, et c'est ça le but d'un film. Ce qui également m'a plu, c'est un film extrêmement objectif.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur qui vient de parler quand il dit que l'auteur est extrêmement objectif et se contente de laisser le spectateur prendre position sans du tout influer sur lui. Je pense qu'il influe, mais d'une manière extrêmement subtile, en nous montrant le cheminement très lent d'un homme, d'un soldat allemand, engagé dans la guerre malgré lui, se comportant au début un peu comme un bureaucrate de la guerre. Enfin, il est là parce qu'on l'a mis là. Et petit à petit, prenant conscience, pour arriver à la fin tout de même à trahir les siens, si on veut, c'est-à-dire à passer du côté que sa conscience lui propose et lui impose. Et je pense que ce qui est parfaitement remarquable dans le film, c'est qu'il ne prend pas conscience par des idées abstraites, mais qu'il prend conscience simplement par une histoire d'amour, enfin extrêmement humaine, qui peu à peu lui dessille les yeux. Pouvait-on ne pas être coupable en essayant d'atténuer le sort des détenus, ou ne fallait-il pas, au contraire, pour ne pas être coupable, comme le dit la jeune fille, essayer de l'empêcher? Et elle dit aussi, aimer, c'est vouloir faire quelque chose, c'est faire quelque chose. Et jusqu'à présent, qu'avait-il essayé de faire? Il avait essayé de passer des médicaments, il avait essayé de donner une cigarette de temps en temps à quelqu'un, mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est de rejeter en bloc tout. Le problème, c'est de se rebeller. Le problème, c'est de passer dans le camp des partisans. Le problème, c'est de lutter contre. Et je pense que c'est ça le sens profond du film.
Oui, là, je crois que Michel Firk met le doigt sur la signification profonde du film. Il y a un duo qui est un duo de ton. Je crois que les deux thèmes, sensibilité et intelligence, sont constamment mêlés. C'est une nouvelle, deux personnages qui se dégagent progressivement, qui s'unissent et qui se perdent. Et il y a trois temps dans l'évolution psychologique, trois temps qui correspondent à l'évolution de Walter. Au début, il ne sait pas parce qu'il ne veut pas savoir. Il est écœuré des autres parce qu'il est écœuré de lui-même. La vie n'a plus de sens. Et ensuite, il prend conscience qu'il y a quelque chose de possible sur le plan individuel. Il veut sauver cette fille et en même temps, il veut se sauver aux yeux de lui-même, c'est-à-dire retrouver sa propre estime. Et progressivement, il sait que ça non plus, ça n'a plus de sens. Elle part dans un train entier et lui reste dans une armée entière et dans un pays en révolte. Et progressivement, il va passer à une autre forme de solidarité.
Monsieur Bulafko, je voudrais intervenir comme spectateur et non plus comme témoin et me demander comment il se fait que la plupart des films qui sont des témoignages sur le nazisme, sur l'occupation, sur les camps de concentration viennent des pays de l'Est et que si peu ont été produits à l'Ouest. En France, par exemple, les seuls qui me viennent en mémoire, c'est « Nuit et brouillard » qui est un film de montage extraordinaire d'Alain René, et « Ceux du ghetto » de Frédéric Rossif, qui est aussi un film de montage. Je sais qu'à une question ou à une suggestion présentée par une association d'anciens résistants et de déportés à une firme de production française, on a répondu « Ce n'est pas commercial ».
Bon, on a cité le cas de La Passagère tout à l'heure. Voilà un admirable film polonais sur la déportation, n'est-ce pas, qui est sorti à Paris. Il y a une clientèle de cinéphiles à Paris qui ne s'est pas dérangée. Il y a effectivement un problème, parce que ces mêmes gens font la queue à des films de divertissement. Je ne veux pas faire de démagogie, mais il est certain que la personne, l'âme sensible, qui ne peut pas supporter l'évocation de la déportation, mais qui fait la queue pour aller voir Goldfinger, pour voir des agents secrets, n'est-ce pas, se mitrailler, triper et jeter des bombes atomiques, il est évident que cette âme sensible a un défaut de construction. Je crois que c'est le symbole.
Non, elle va se défouler tout simplement devant un conte de fées, c'est tout.
Bah oui, mais enfin.
C'est tout à fait différent. C'est de la psychosociologie, c'est plus de l'art, ça.
Ah, mais c'est quand même important, Mitri. Et ça concerne bigrement le cinéma de savoir qu'en 1965 en France, le public refuse d'aller voir La Passagère pour aller voir les
Mais je suis bien d'accord, mais je suis bien d'accord.
Et ça a des conséquences. François Truffaut dit l'autre jour à propos d'un jugement de l'Express qui disait que La Passagère est un film très beau, mais qui n'est pas recommandé aux personnes sensibles. Truffaut disait, si ce n'est pas à recommander aux personnes sensibles, à qui faut-il le recommander?
Je crois qu'on pourrait conclure. Maintenant, comme je ne suis pas du tout un spécialiste du cinéma de l'Allemagne de l'Est, je préférerais que ce soit Michel Firk, qui connaît bien ce cinéma-là, qui veuille bien nous donner les mots de la fin.
Ce que je voudrais dire, moi, c'est que j'aime bien James Bond et Goldfinger quand même.
Mais nous aussi.
Non, mais parce qu'on avait...
Il y a un ordre. Non, mais attention, je ne vous donne pas le choix. Non, je vous dis, je me refuse à la démagogie. Je dis simplement qu'il y a un ordre de priorité.
Non, enfin, moi, je tenais à dire que j'aimais bien James Bond. Oui, maintenant, en ce qui concerne les films d'Allemagne de l'Est que je ne connais pas particulièrement, j'ai eu quand même la chance, puisque j'ai passé quelque temps à Cuba, de voir à Cuba énormément de films d'Allemagne de l'Est. Et je me suis aperçue qu'en Allemagne de l'Est, il y a non seulement des films sur le nazisme, mais qu'un autre thème principal a l'air d'être, et c'est là que nous nous rapprochons de James Bond, les films d'espionnage. C'est-à-dire que quand on sait enfin, la situation de l'Allemagne de l'Est par rapport à l'Allemagne de l'Ouest, la situation de Berlin par rapport à l'Allemagne, on s'aperçoit qu'une des grandes préoccupations aussi des Allemands, c'est les affaires d'espionnage. Et en effet, la manière dont est traité l'espionnage dans les films de James Bond et la manière dont est traité l'espionnage dans les films de l'Allemagne de l'Est sont extrêmement différentes. Et on peut probablement y retrouver les mêmes différences qu'entre les films de divertissement qu'on fait en Allemagne de l'Ouest et les films documentaires comme ce film qu'on vient de voir.
Je crois que c'est justement ce qu'il fallait dire. Ça clôt tout le problème. Oh.
unseren Städten etwas brennt. Diese Rinden mit ihren großen Reisen brechen unsere Blosen, starker noch die wilde Flammen als Arum schon brennt.
Und France Culture vient de vous présenter Connaître le cinéma, l'émission publique de Jean Mitry et Philippe Hainaut. Aujourd'hui, le cinéma allemand contemporain en République démocratique, avec la projection du film de Konrad Wolf, Étoile. Commentaires et débats avec la participation de M. Bulavko, Michel Firk et des spectateurs. Prise de son Michel Lepage et André Robert, régisseur de la scène Georges Richard, assistante de réalisation Nicole Guesveller.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 mars 1965.